Que le Seigneur soit béni pour ces moments. Oui, c'est une grâce de nous retrouver dans sa maison. Nous allons lire donc dans 1 Corinthiens au chapitre 5, nous allons lire le chapitre en entier, un chapitre sur la discipline dans l'Église par rapport au péché. C'est un sujet important qu'on aborde, pour ainsi dire, jamais dans les Églises, parce qu'on a peur que les gens partent quand on aborde ce sujet. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1er. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1er. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plus tôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue, avec les débauchés de ce monde, ou les cupides, ou les ravisseurs, ou avec les idolâtres, autrement il nous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme mon frère, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas manger même avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors ? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger ? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Amen. Amen. Donc là, on attaque un chapitre sérieux, non ? C'est un chapitre important puisque au fur et à mesure, on voit comment se comportent les Corinthiens dans l'Église. Dans une Église, ils ont reçu, ils ont tous les dons, ils sont vraiment bénis. Et pourtant, le scandale a éclaté dans l'Église. C'est terrible quand des scandales éclatent dans les Églises. Un gros scandale, puisque Paul dit qu'à cette époque-là, ce péché-là n'existait même pas dans le monde. Vous l'avez lu avec moi, hein ? Vous l'avez lu comme moi. Et les scandales, c'est terrible dans la Bible. Jésus parle plusieurs reprises, ça vaudrait la peine que nous regardions toutes les fois où Jésus parle de ceux qui commettent des scandales. Malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Comment on peut, par son témoignage, éloigner les gens de Dieu ? C'est un sujet archi important. Aujourd'hui, les gens n'y pensent même pas. Ça vient beaucoup du fait, comme je l'ai déjà expliqué, que beaucoup de gens sont passés par la repentance, mais ne sont pas passés par la conversion. Je n'y reviens pas, mais vous savez combien c'est sérieux. Mais les scandales, ils sont là, dans cette église, et on voit bien que ça éloigne les gens de la parole. Pourquoi beaucoup de gens n'ont jamais voulu aller dans une église ? Pourquoi beaucoup de gens disent « mais moi je ne mettrai jamais les pieds dans une église ?» Alors ils ont tort bien sûr, mais certains, on les a scandalisés. Et Jésus a même dit qu'il valait mieux pour certains hommes qu'ils ne soient jamais nés, ou alors qu'on leur ait mis une pierre au pied, qu'on les jette dans la rivière, plutôt qu'ils aient scandalisé quelqu'un. Ça va très loin cette affaire, c'est pas les conséquences du scandale que je voudrais aborder ce soir, mais il faut quand même comprendre que lorsqu'il y a un péché dans l'Église, un péché flagrant où la personne veut rester dans le péché, on doit savoir comment le régler. Un homme donc avait pris la femme de son père et vivait avec. Alors c'était un péché, c'était une honte. Le péché c'est quoi ? Le péché c'est quoi ? Un péché c'est quoi ? Qu'est-ce que ça fait un péché ? Ça fait honte ? Oui ou non ? Ça amène la honte. La honte dans une famille, Le péché, c'est la Bible dit que le péché, c'est la honte des peuples. Prenez la concordance et regardez, prenez le mot honte et vous allez voir toutes les fois où des textes en parlent. Moi, ce matin, je le faisais, ça fait vraiment réfléchir. C'est la honte pour les gens, c'est la honte pour l'église locale, c'est la honte pour Christ. On jette l'opprobre sur le nom du Seigneur. Ça annule toute la beauté de l'évangile. L'évangile, est-ce que ce n'est pas merveilleux? Sincèrement, l'évangile, est-ce que ce n'est pas merveilleux, l'évangile? Dès que le péché est toléré dans l'Église, ben ça enlève la bénédiction de l'Évangile. Vous pouvez le calculer comme vous voulez, et c'est terrible, parce que là où les gens devraient dire « Oh, l'Église, c'est quelque chose de merveilleux », ça enlevait toute cette beauté. Alors, il y a plusieurs formes de honte, j'en ai relevé un ou deux. Proverbe 10:5, « Celui qui dort est un fils qui fait honte ». Bon, un paresseux, c'est vrai que c'est une honte dans une maison. Un enfant qui ne veut pas travailler, est-ce que ce n'est pas une honte? Ouais, c'est une honte. Quelqu'un qui ne travaille pas, il fait honte. Mais vous comprenez, si on prenait tous les textes, il y a plusieurs sortes de honte. Vous me suivez, hein? Le péché, la honte des peuples. Dans Jérémie 8, versets 11 et 12, ils ne connaissent pas la honte. Ils ne connaissent pas la honte. On va le lire ce texte, Jérémie 8. C'est important de voir qu'il y a plusieurs degrés dans la honte. Je pense, hein? Quelqu'un pourrait me dire, non, c'est tous pareil. Non, 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 je pense quand même qu'il y a plusieurs degrés. Jérémie 8, 11 et 12. Ça commence avec des choses toutes simples, mais ça va loin, je vous le dis. Jérémie 8, 11. Vous voyez, on parle des abominations qui ne sont pas réglées, on les laisse. À cause de la légèreté. Jérémie 8, 11. Ils pensent à la légère, la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils. Il y a beaucoup d'églises, on chante la joie, le bonheur, et en vérité, personne n'est en paix. À cause du péché. Paix, paix, disent-ils, il n'y a point de paix. Ils seront confus, car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtirai, dit l'Éternel. Donc on pourrait prendre tous les textes. Faites-le, il n'y a rien de plus facile aujourd'hui. Je vous l'ai souvent dit, avec une concordance biblique, puisque vous avez presque tous Internet, vous pouvez tous télécharger tous ces textes qui indiquent qu'il y a plusieurs degrés de honte. En tous les cas, dans Ézéchiel, il dit, mais ayez honte, rougissez de votre conduite. Il y a des fois, on devrait avoir honte. T'as pas remarqué? Ah ben non, j'ai pas fait gaffe. Combien de fois on m'a dit, ah non, mais c'est pas grave. T'as menti, ça te fait rien? Ah ben j'ai même pas fait gaffe. Mais moi, je vous avoue que ça fait quand même mal au cœur. Hein. Quelqu'un qui commet un péché, il s'en rend même pas compte. Je vous avoue quand même que ça devrait nous faire réfléchir. Mais dans ce chapitre, ce que je n'ai pas exposé la dernière fois quand j'ai parlé de la discipline dans l'Église, il y avait le problème de ce gars qui vivait dans la fornication ou dans la débauche, mais il y avait un autre péché. C'était le péché de l'Église. Est-ce que vous comprenez? Le péché de l'Église, de l'Assemblée, qui ne semblait pas tellement troublé par cette affaire, et qui laissait faire. Il tolérait le problème. Vous savez que la tolérance aujourd'hui, c'est un mot qui plaît. Il faut être tolérant. Ça plaît, ça. C'est un mot super chic. Ça plaît, il faut être tolérant partout. Ça prouve qu'on est dans le vent, etc. Mais quand il y a un péché dans l'Église, il y a le péché en soi, mais si le péché est toléré, ça commet un double péché parce que les responsables de l'Église devraient régler le péché. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas que le péché. En vérité, ce chapitre nous parle d'un double péché. Le péché du gars et le péché des responsables qui ne se sont pas émus de cette affaire et qui ont laissé faire. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Les responsables. Donc, Paul écrit, et quand Dieu nous parle, il nous parle parce qu'il sait où nous en sommes, il sait ce qu'il y a besoin de changer, il sait ce que nous avons besoin d'entendre. On a chanté si j'apprends à écouter, si je t'ouvre mon cœur. Mais qu'est-ce que tu as à me dire, Seigneur? Parce que peut-être que vous êtes dans le péché et que vous ne le réglez pas. Tant qu'on ne le sait pas, nous, on vous dit, tant qu'on ne le sait pas, on ne dira rien. Mais vous amenez la honte sur vous, sur l'Église, si c'est le cas. Et si on sait un péché qu'on ne le règle pas, on amène la honte sur toute l'Église et la désapprobation de Dieu et sur cette beauté que devrait être l'Évangile. Donc, Paul, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il a à dire. Dieu sait ce qu'il a à nous dire. Vous le croyez que Dieu sait ce qu'il a à nous dire? Est-ce qu'on est prêt à entendre ce que Dieu a à nous dire par rapport à notre péché? Eh ouais, le péché d'impureté sexuelle, c'est grave. Mais le péché d'indifférence à l'égard du péché, ça n'est un autre. C'est un aveuglement. Vous savez, moi, il y a des textes que je relisais ce matin parce que je voulais, bien sûr, construire ma prédication autour de ce sujet, bien sûr. Quand Jésus dit, mais ils ont des yeux et ils ne voient pas. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Pour parler de l'indifférence, le moins indifférent, il n'est pas dans la Bible. Mais le moins sensible, c'est pareil. Insensible à l'égard du péché. Combien on peut se tromper? Je lisais encore ce matin l'épître de Jacques. Combien de fois il répète, ne vous trompez pas par de faux raisonnements. Est-ce qu'on peut se tromper? Eh bien oui. Quand Jésus dit à l'Église, mais tu ne le sais pas. Tu ne sais pas que tu es pauvre. Tu ne sais pas que tu es malheureux. Tu crois que tu es riche et tu ne sais pas que tu es pauvre. Et c'est un aveuglement, parce qu'il n'y a pas cette soif de Dieu. Quand on a soif, Dieu nous éclaire. Vous croyez que si vous dites, Seigneur, Seigneur, éclaire-moi, il vous éclairera? Mais bien sûr, Dieu ne joue pas à cache-cache. Si vous dites, Seigneur, écoute, je te demande de m'éclairer, montre-moi ce qui ne va pas. L'autre jour, je parlais avec une dame, ça fait 11 ans que Dieu lui résiste. 11 ans. Je dis, mais ma soeur, il faudrait que vous réfléchissiez sérieusement. 11 ans que Dieu vous résiste, 11 ans que Dieu ne vous exauce pas, que tout va de travers, vous croyez que ça vient des autres? Alors c'est sûr qu'elle était mal à l'aise, mais je dis, mais écoutez, moi je vous dis qu'il doit y avoir un obstacle à la prière dans votre vie. Si je suis tout le temps en train d'accuser les autres, ça ne va pas. C'est vrai que les autres peuvent avoir commis des erreurs, mais ce n'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Mes frères et sœurs, demandons à Dieu la sensibilité. Demandons-lui. On peut demander. Qu'est-ce qu'on peut demander à Dieu? Qu'est-ce qu'on peut lui demander? Tout. Est-ce qu'on peut demander à Dieu de la sagesse? Est-ce qu'on peut demander à Dieu du bon sens? Etc. Oui, regardez toutes les fois, David, enseigne-moi le bon sens, etc. On peut demander à Dieu. Bon, donc, Paul explique, en fin de compte, il y a deux péchés. Et dans une église, mes frères et sœurs, si on aime le Seigneur, vraiment si on aime le corps de Christ, si on aime l'œuvre de Dieu, enfin, quand il y a un péché, on devrait en parler. Vous apprendriez que je suis dans le péché. Qu'est-ce que vous feriez? Vous apprendriez que je suis dans le péché. J'ai volé 20 000 euros à l'église. Personne n'est au courant. Qu'est-ce que vous feriez? On m'a donné 20 000 euros, je les ai gardés pour moi. Qu'est-ce que vous faites? Allez. On partage? Qu'est-ce que vous faites, sérieusement? Vous le diriez? Vous le diriez? Vous iriez voir un responsable et dire, écoutez, il y a un truc qui ne va pas. Est-ce que vous le diriez? Jonathan, tu le dirais? Mais j'espère. Mais vous savez, mes frères et sœurs, moi, dernièrement, il y a un frère, il est parti d'ici. Il était avec quelqu'un qui était vraiment dans le péché. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Ah, j'ai pas osé vous le dire. J'ai dit, mais c'est pas bien. Vous n'aimez pas l'œuvre de Dieu. Vous n'aimez pas ce frère. Ils ne sont pas sensibles. C'est de la sensiblerie. C'est de la sentimentalité. C'est être sentimental. Mais quand on aime l'œuvre de Dieu, on réagit. Et cette épître, elle a été écrite dans ce but. De dire, oui, il y a le péché, bien sûr, qu'il y a le péché sexuel qui est un gros péché. Mais l'insensibilité, le fait de ne pas vouloir régler un problème, si on voit un problème, dites-le discrètement. Vous savez, Monsieur Gros, c'est vrai qu'il faut faire gaffe. Comme il a dit, ne reçois pas d'accusation contre l'ancien sans la déposition de deux ou de trois témoins. Donc il faut des preuves. Il faut faire attention. Et là aussi, il faut faire attention. Parce qu'il ne faut pas faire la chasse aux sorcières et voir des pécheurs partout. Mais mes frères et sœurs, si on aimait vraiment l'œuvre de Dieu, on réaliserait que le péché jette l'opprobre sur l'Église, donc sur Jésus, sur le beau nom de Jésus que nous portons dans notre vie. Donc, Paul, à partir du verset 3, vous voyez, il faut savoir découper les textes. Bon, il explique que c'est grave, qu'il y a donc deux péchés, mais au verset 3, il dit « pour moi », et c'est Dieu qui parle, hein, c'est pas Paul, « pour moi », absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Vous voyez, il prononce le jugement. Il prononce un jugement. Vous avez vu au verset 5, verset 4. Au nom du Seigneur Jésus, avec la puissance de notre Seigneur Jésus. C'est au nom du Seigneur. Il honore le nom du Seigneur. Dans l'Église, on honore le Seigneur. On l'a lu tout à l'heure lorsque Dieu dit à Élie, mais d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Ses fils étaient dans le péché grossier, là aussi, dans l'impureté sexuelle. Et il les laissait faire. Il leur a juste dit, oh, c'est pas bien, mes petits cocos. C'est juste ce qu'il leur a dit. À un moment donné, Dieu va intervenir. D'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Mes frères et sœurs, c'est Dieu qu'on honore dans l'Église. C'est le nom du Seigneur qu'on doit honorer. Et Dieu va dire à Élie, parce que j'honorerai celui qui m'honore et je mépriserai celui qui me méprise. Nous devons honorer son nom, mes frères et sœurs. C'est important d'honorer le nom du Seigneur. L'Église, est-ce que c'est important? Je ne parle pas du bâtiment, mais est-ce que c'est important qu'on puisse dire qu'on a une belle Église? Ce n'est pas une question de nombre. Mais mes frères et sœurs, moi je vous assure, des fois, ce frère, il m'a beaucoup peiné. Il m'a dit, monsieur Gou, mais non, il n'y a pas de monsieur Gou qui tienne. J'ai dit, vous avez toléré le péché, vous avez utilisé en plus ce frère pour faire de l'évangélisation, alors que vous saviez qu'il était dans le péché, vous devriez avoir honte. Et on devrait avoir honte lorsque on ne protège pas le bon nom de Jésus que nous portons. Car quand nous avons pris le baptême, qu'est-ce que c'est que nous avons décidé? Nous avons décidé que Jésus soit notre maître, notre Seigneur. Et nous voulons. Et Paul, il faisait certaines choses, mais c'est Dieu qui lui disait de le faire. Quand on lit les choses, il faut comprendre que c'est Dieu qui nous demande de les faire. On doit savoir comment il faut se conduire dans l'Église. Vous connaissez ce verset? Il est où ce verset? Si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire. C'est bien, Jonas, c'est bien, Nicolas. 1 Timothée chapitre 3, verset 15. On va le lire. Mais c'est important, mes frères. C'est important. Un chrétien, c'est le but de nos rencontres. On sait qu'on soit fortifié, c'est qu'on soit édifié. Mais peut-être que Dieu vous appellera au ministère. Peut-être que Dieu vous appellera à être diaconesse. Peut-être que Dieu va vous appeler à être une épouse de pasteur. Est-ce que ça peut arriver? Est-ce qu'il peut y avoir parmi nous des jeunes filles qui seront un jour des femmes de pasteur? Mais bien sûr, est-ce qu'il peut y avoir parmi nous des frères qui seront anciens dans une église? Mais je l'espère. Et des diaconesses, etc. On peut aspirer à ces choses. Donc on est là pour apprendre. 1 Timothée chapitre 3, verset 15. Mais si je tarde, c'est Paul qui parle, c'est un pasteur, tu sauras comment il faut, c'est un impératif, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Eh bien, l'église, elle est belle quand elle marche dans l'obéissance, elle est la colonne et l'appui de la vérité. C'est important. Ne pas agir, c'est détruire le témoignage. Ne pas agir, c'est détruire l'œuvre de Dieu, c'est détruire des gens. C'est détruire nos enfants. On a entendu des enfants, mais moi quand je vois l'hypocrisie dans les églises, tu crois que ça me donne envie d'y aller? Moi je le ferai pas, parce que c'est pas bien. Mais j'ai des témoignages qui me viennent à l'esprit, parce que vous savez tout ce qu'on me raconte. Je peux vous dire que je comprends qu'on est éloigné des gens du Seigneur. Nous devrions avoir la joie de dire, oh, moi je veux tout faire pour que le bon nom de Jésus soit honoré dans l'Église. Regardez dans Ézéchiel 22, c'est écrit, ça, il parle au pasteur, mais ce sont des textes d'une sévérité. Mais je ne sais pas si on réalise, parce que les sacrificateurs, donc les pasteurs, mais dans le Nouveau Testament, les sacrificateurs, est-ce que ce sont que les pasteurs? C'est qui les sacrificateurs dans le Nouveau Testament? C'est tous les chrétiens. Ézéchiel 22, verset 26. Quand j'entends dire, oh, moi je dis rien, je ne veux pas avoir d'histoire. Mais écoutez-moi, il vaut mieux avoir des histoires que perdre la paix et perdre la communion avec Dieu, croyez-moi. Ézéchiel 22, verset 26. Ces sacrificateurs violent ma loi, ils profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux, c'est-à-dire méprisé. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang. Et la suite, qu'est-ce que vous avez? Ils perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Mais quand vous lisez ça, Dieu parle au pasteur. Dieu parle au pasteur. C'est pour ça que Paul dit, mais vous voulez que cette église marche vraiment dans l'approbation de Dieu? Il faut donc qu'il y ait un jugement. Quel est le jugement? Verset 5. qu'un tel homme, alors la parole c'est sûr qu'elle est très sévère, c'est quand même Paul qui a écrit l'amour pardonne tout, hein, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Alors bien sûr, s'il y a repentance. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas parce qu'on exclut le gars de l'église qu'il va être sauvé. Parce qu'on exclut le gars de l'église, il va se sentir tout à nouveau sans Dieu. Il est sans Dieu, sans la communion, sans la vie de l'église, etc. Il est livré au monde et ça doit le pousser à la repentance. S'il ne se repent pas, il ne sera pas sauvé. Alors est-ce que Dieu pardonne tout? Tiens donc. Alors, est-ce que Dieu pardonne tout? Parce que là, si vous savez, moi, toutes les questions qu'on me pose. Est-ce que Dieu pardonne tout? Est-ce que Dieu pardonne tout? Comment? Si, si, Dieu pardonne tout. C'est écrit dans Matthieu, je ne sais plus où, tout péché et tout blasphème sera pardonné. C'est écrit? Sophie, elle a un doute. Alors, c'est dans Matthieu. Il faut que je le trouve. Matthieu. Mais c'est important, mes frères et sœurs. Parce qu'il y a des gens qui... Le diable, vous savez, il est fort pour nous faire douter du pardon. C'est écrit. Alors. Voilà. Matthieu 12, verset 31. Mais c'est important, mes frères et sœurs. Dieu pardonne tout. Il n'y a qu'une chose que Dieu ne pardonne pas. Matthieu. Voilà, elle est contente, c'est bien, elle avait raison. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Alors c'est quoi le blasphème contre l'esprit? Parce que là aussi, si vous saviez tout ce que j'ai entendu. Eh bien le contexte, au verset 24, je vous ai dit 50 fois, si vous voulez comprendre un texte, lisez le contexte. Et vous allez voir, c'est imparable. Au verset 24, les pharisiens ayant entendu cela dire, « Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. » Donc, ils attribuaient à Satan l'œuvre de Jésus-Christ. Le blasphème contre le Saint-Esprit ne peut pas être pardonné. Et pour cause, si les gens pensent que Jésus c'est le diable, vous comprenez bien qu'ils ne demanderont jamais pardon. Mais tout péché, écoutez, vous l'avez lu, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. À partir du moment où il y a repentance, tout péché et tout blasphème sera pardonné. Regardez dans Matthieu 10, dans Matthieu 10. Mais c'est important ces choses, parce que la discipline dans l'église, c'est important, parce qu'il n'y a pas que la dénonciation du péché et que le mépris par rapport à l'indifférence, il y a aussi l'importance d'apprendre à pardonner, d'apprendre à consoler. Parce qu'ils ont commis un autre péché encore après les Corinthiens. C'est qu'ils ont manqué d'amour, ils ont manqué de consolation. C'est pas parce qu'on doit être droit qu'on doit manquer d'amour. Ben, on n'aura peut-être pas le temps de voir ça ce soir. Matthieu chapitre 10, verset 33. « Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Bon, qui c'est qui dit ça? C'est Jésus qui dit ça. « Quiconque me reniera, je le renierai. » Et quand il a dit ça, je peux vous dire qu'il y avait Pierre. Ils étaient là, il y avait les 12. Qui a renié Jésus, au fait? Pierre, il a renié Jésus. Alors, si on part de là, Pierre devrait être renié devant le Père. Oui ou non? Oui. Mais vous avez la preuve que Dieu pardonne. Mais Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas regretté. Judas, il a regretté. Judas, il a regretté, il a balancé les pièces d'argent dans le temple, mais il ne s'est pas repenti, ce qui l'a empêché de croire au pardon. Parce que si Judas, il avait pris les jambes à son cou, s'il avait jeté les pièces dans le temple, ça c'est pas grave, mais qu'il était parti en courant au calvaire, est-ce qu'il aurait pu partir au calvaire et dire « Seigneur, je te demande pardon, l'amour, est-ce qu'il aurait pu demander pardon? Mais est-ce que Dieu l'aurait pardonné? Mais bien sûr, mais c'est sûr. Vous lisez l'Apocalypse, vous avez vu les chrétiens dans quel état ils sont? Dans quel état ils sont? Il y en a une église, c'est même le trône de Satan. Et pourtant Dieu dit, repens-toi, et je te donnerai, etc. Lisez les lettres aux églises. Mais il faut le comprendre ça, mes frères et sœurs. Parce que le diable, il ne veut pas que vous le compreniez. Il n'y a pas d'échec fatal dans la grâce s'il y a repentance. Ce que cela, bien sûr, ne nous autorise pas. à dire, ah bon, mais Dieu pardonne tout, mais c'est formidable. Parce qu'à ce jeu-là, laissez-moi vous dire que ça ne sortira pas. Parce que vous voyez, tout à l'heure, quand on chantait, non, il ne changera jamais. Il y a beaucoup de chrétiens, tout à l'heure, quand on a chanté devant le trône du Très-Haut, il y a une parole, non, il ne changera jamais. Et il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que Jésus change. Pourquoi ? Quand Ananias et Saphira ont menti dans le temple, qu'est-ce qui est arrivé ? Ils sont morts de suite. La gloire de Dieu était telle dans l'Église que le jugement était immédiat. Quand il y a la gloire de Dieu, le jugement est immédiat. C'est pour ça qu'à la fin, on voit que les vierges folles resteront avec les vierges sages, le blé avec l'ivré. À la fin, il y aura tellement d'apostasie dans les églises que ça ne posera pas beaucoup de problèmes. Mais on peut quand même travailler à ce que la présence de Dieu se manifeste de plus en plus dans l'église, mes frères et sœurs. Et on devrait le faire. Et ces études, ce n'est pas pour notre intelligence, c'est pour que ça nous aide à dire, mais on va faire en sorte que le nom du Seigneur soit sanctifié dans l'église. Je parlais tout à l'heure, tiens, des fils d'Élie. Les fils d'Élie, ils n'ont pas menti, eux. Eux, ils ont volé et couché avec des femmes. Non, mais tenez-vous bien. Ils couchaient avec des femmes dans le temple. Et pourquoi Jésus n'est pas intervenu ? Comme il a fait pour Ananias et Saphira. Alors, il y a des gens qui s'imaginent. Je vis dans le péché. Il ne m'arrive pas de tuiles. Alors, laissez-moi vous dire, quand il y a la gloire de Dieu, le châtiment, il est immédiat. Quand il n'y a pas la gloire de Dieu, le châtiment, il sera, mais il est reporté. Est-ce que les fils d'Élie ont été jugés ? Et il y a des gens qui s'imaginent, mais il y a plein de textes, ils ne me viennent pas à l'esprit, ceux-là je ne les connais pas par cœur. Mais il y a plein de textes où les gens disent, mais Dieu ne fait ni bien ni mal, faisons ce qui nous plaît, je vis dans le péché, personne ne me dit rien, personne ne s'en rend compte, ma femme ne s'en rend même pas compte, mes enfants ne s'en rendent même pas compte, youpi, je fais comme je plais, merci Seigneur presque. Mais le jugement, il viendra. Ne nous imaginons pas qu'on va passer outre. Et si ce n'est pas ici-bas, laissez-moi vous dire que ça sera après. Et si c'est après, ça sera certainement trop tard. Parce qu'ici-bas, le jugement nous permet de nous repentir. Vous voyez ce que je veux dire ? D'ailleurs, c'est écrit que Dieu nous châtie pour que nous participions à sa sainteté. C'est une grâce d'être châtié. Si vous vivez dans le péché et que vraiment vous êtes convaincu de péché, mais laissez-moi vous dire que la conviction du péché, c'est une grâce, une conviction de péché. Si vous détestez la conviction du péché, c'est que vous n'avez rien compris à l'Évangile. C'est comme la sainteté. La sainteté, c'est un fardeau ou c'est un privilège de marcher dans la sainteté ? Franchement, est-ce que ce n'est pas un privilège de marcher dans l'obéissance ? Quand on ne comprend pas ces choses, c'est que le diable, il nous a trompés par de faux raisonnements. Alors, le jugement, il doit y être. Paul n'est pas à Corinthe, il leur écrit, il a appris, il dit, moi je ne suis pas présent de corps, mais je suis présent d'esprit. Quand on est spirituel, on peut évoquer le problème d'une église, d'une situation. Moi hier, il y a une femme de pasteur qui m'a appelé, je ne sais même pas de quel mouvement elle est. Elle m'appelle parce qu'elle me dit, voilà, on écoute vos prédications, mon mari il est pasteur, il utilise vos prédications pour l'église, et on s'est rendu compte que dans l'assemblée, il y a le responsable de la chorale qui a couché avec une fille, un autre responsable, pareil, qui a mis enceinte une femme qui bosse avec lui, enfin, et on les a mis en discipline, et il me dit, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a la moitié de l'église qui n'est pas contente. Ils ne sont pas contents parce qu'on a mis de l'ordre dans l'église. Mais vous savez, je lui ai dit, c'est exactement ce que la Bible dit, qu'à la fin des temps, il y en a sainte de fous et il y en a sainte de sages. Et quand les gens ne sont pas contents d'exercer la discipline dans l'église, parce qu'ils partent du principe, oui, mais on pourrait peut-être les gagner en les laissant dans l'église. Oui ou non ? C'est un raisonnement, ça. On peut les gagner, on les laisse dans l'église. Mais qu'est-ce qu'il dit, Paul ? On revient au texte. Qu'est-ce qu'il dit ? Mais le problème, c'est qu'on ne lit pas. On ne lit pas la Bible. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6, la deuxième phrase, « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ?» Voilà. Le problème, c'est que les gens, et parce que les gens, ils sont charnels. On va terminer avec ça, certainement. Les gens... On choisit ou d'être spirituel. Quand on est chrétien, c'est l'un ou l'autre, de toute façon. On peut jouer la comédie, mais en vérité, on peut jouer les spirituels. On peut donner une apparence. Mais en vérité, on est spirituel ou on est charnel. Vous êtes d'accord ? Dieu le sait. même si on feint de l'être, il n'empêche que c'est l'un ou l'autre. Mais quelqu'un qui est spirituel, il sait très bien que ce que Dieu dit, il faut le faire. Alors il y a plusieurs sortes de punitions. La punition, vous avez vu comment ça marche en Israël, la punition ? C'est restrictif grave, quoi. C'est œil pour œil, dent pour dent. Vous avez vu comment ça marche en ce moment en Israël ? Vous avez remarqué ? Vous suivez les informations un peu ? Bon, ils sont restés sous la loi, donc ils sont dans cette punition. Il y a pas besoin de repentance. C'est la punition restrictive. Œil pour œil, dent pour dent. C'est comme ça que ça marche. Tu payes, une fois que tu as payé, un gars qui vole, voilà, il va 2 mois en prison, il a payé sa dette, la loi est satisfaite, voilà, il est libre. Mais est-ce qu'il a changé, le gars ? Non. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des punitions qui ne servent à rien. La discipline biblique, elle est intelligente. C'est le but de changer. Parce que ce n'est pas parce qu'on met quelqu'un en prison qu'il va changer. Souvent, d'ailleurs, les gens en prison, ils deviennent comment ? Ils deviennent pires. C'est prouvé. Parce que, mais en fait, est-ce que c'est important d'avoir des prisons ? Tiens donc, est-ce que vous êtes pour ou contre les prisons ? Est-ce qu'il en faut des prisons ? Ben, bien sûr qu'il en faut. Mais la personne qui pense qu'il ne faut pas de prison, je vous dis, elle est mal. Parce qu'on ne met pas les gens en prison pour qu'ils changent. Bien sûr qu'on aimerait qu'ils changent. On met les gens en prison pour les protéger, pour protéger la société. Vous n'êtes pas content que vos enfants soient protégés ? Vous avez vu tous les gens tarés, pervers, qui sont emprisonnés ? Bien sûr qu'on aimerait qu'ils changent. Mais tant pis s'ils ne changent pas. S'ils ne changent pas, bien sûr, c'est assez grave, mais il faut protéger la société. Alors, je ne veux pas faire tout un enseignement sur la prison et sur les différentes formes de punition, mais c'est pour vous dire tout simplement que dans la Bible, la punition, elle est rédemptrice. Elle permet aux gens de changer. La punition, ce n'est pas pour punir, c'est pour amener les gens à se repentir vraiment. Parce que dans le royaume de Dieu, s'il y a quelque chose qui restaure un homme, c'est la repentance. Alléluia. Pas les regrets. Oh, c'est pas bien, je regrette. Combien de fois, moi, j'ai vu des femmes qui m'ont dit, ou des jeunes filles qui fréquentaient un garçon qui était inconverti. Mais monsieur Gouy, il change. Il me dit qu'il regrette. Lorsqu'il est méchant, lorsqu'il fait ci, lorsqu'il fait ça, il me dit qu'il regrette. Je dis, mais ça change rien, ça. Mais si, je vous assure, il va changer. Non. Il regrette. Il faut pas qu'il regrette. Il faut qu'il se repente. Il y a une grande différence entre regretter et se repentir. Voilà, regretter, ça change. Ouais, je regrette, j'ai fait mal, j'ai parlé mal, et je recommence. Quand vous vous repentez, Dieu, il vous guérit. C'est comme ça. Quand vous vous repentez, Dieu, il vous pardonne. Moi, j'aime beaucoup le texte. Il y a longtemps, peut-être que je n'ai pas parlé dessus. Mais c'est dans Actes, chapitre 2. Moi, c'est un texte qui m'a fait pleurer. Il m'a fait pleurer de reconnaissance envers l'amour de Dieu. Vous savez, dans Actes chapitre 2, bon, les semaines ont passé, Pierre avait renié Jésus, Pierre s'en va en pleurant, il se repent, et qui c'est qui prêche quelques semaines après la Pentecôte ? C'est Pierre. Mais aujourd'hui, moi je peux vous dire qu'aujourd'hui, Pierre, il ne prêcherait pas encore dans les assemblées de Dieu. Mais je le dis, peut-être ça me jouera des tours ce que je viens de dire, mais ce n'est pas grave. Laissez-moi vous dire que Pierre, il ne prêcherait pas dans les assemblées de Dieu aujourd'hui, 2000 ans après. Actes chapitre 2. Non mais ce texte, moi je vous assure, il m'a fait pleurer de joie quand j'ai compris ce que c'était écrit. Bon, il prêche, il n'y en a juste que 3000 qui se repentent. Bon, je pense qu'il avait quand même l'onction. Au verset 12 du chapitre 3, regardez. Pierre, voyant cela, dit au peuple, tout le monde est là, hein? Tous les pasteurs sont là, mais c'est lui qui prêche. Pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme ? Regardez bien, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré, regardez la suite, moi je livré, et qu'est-ce que vous avez dans votre vie ? Vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste. Non mais franchement, qu'est-ce que vous... Moi je vous assure, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais Seigneur, tu fais de l'humour, Seigneur. Pierre qui prêche et qui dit aux gens, vous avez renié le juste. Moi j'aurais pas osé le dire, vous voyez. Mais c'est dans la Bible. Dieu a voulu que ce soit dit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Dieu a voulu qu'à deux reprises, Pierre dise « Vous avez renié le juste ». Une fois, on aurait pu dire « Bon, il n'a pas fait exprès », mais deux fois, c'est sûr, il a fait exprès. Mais ça veut dire que quand Dieu pardonne, il pardonne. C'est ça que ça veut dire. Il y a des gens, ils demandent pardon au Seigneur, mais ils mettent un mois à se pardonner. Ils sont tristes pendant un mois. Il n'y a pas écrit « Dieu pardonne, il vous faut être triste pendant un mois ou avoir le cafard pendant trois semaines ». Quand Dieu pardonne, il pardonne, mes frères et sœurs. C'est pour ça qu'après, on verra. On verra que la punition, elle doit être suivie de grâce. On doit être intelligent. Vous savez, des fois, nous, on est compliqués, nous, avec le péché. Alors, on laisse le péché des chrétiens, des fois. Et les gens qui arrivent dans le péché, on est sévère avec eux. Est-ce qu'on doit être sévère avec les pécheurs qui arrivent? Mais non. Mais non. Il faut les aimer. Il faut leur apporter l'amour de Dieu. Il faut pas, moi, je l'ai vu, ça, déjà. Des gens qui arrivaient pour la première fois. Ils arrivaient avec la cigarette à la main. Sans plus, je vous dis, on ne sait pas. C'est pas bien, Mathieu, de fumer. C'est pas bien. Mais ces gens, ils ne sont jamais revenus. Est-ce que c'était intelligent? Moi, je l'ai vu ici, il y a pas longtemps. Il y a un an. Une sœur d'ici, je crois qu'elle est la même. Hein, qui a dit, à quoi ça sert de fumer? Il ne faut pas fumer, c'est pas bien. Hein. Que vous disiez ça, si moi, je fume, par exemple. Que vous me le disiez, est-ce que ça serait normal que vous me le disiez? Mais bien sûr. Mais on ne va pas, on va. Voyez comment on est déséquilibré, on a du mal à savoir comment il faut se comporter. Dans l'Église, on doit demander du discernement. La punition dans l'Église, elle a un but. Paul, c'est un homme rempli du Saint-Esprit. Bien sûr que c'est sévère qu'un tel homme soit livré à Satan. Bien sûr que c'est humiliant. Bien sûr que c'est une épreuve. Mais c'est pour que la personne, elle puisse se repentir. Vraiment, je suis dans le péché. Moi, je l'ai souvent fait. Aujourd'hui, les gens, ils partent de suite. C'est dingue. Vous dites à quelqu'un, vous savez, c'est pas bien ce que vous avez fait. La personne n'en la voit plus. Les gens sont d'une susceptibilité, ils n'acceptent rien. Bon, en même temps, tant mieux, dans le sens où on n'a pas besoin de passer par tout ce processus. Mais moi, je crois, mes frères et sœurs, qu'on devrait être intelligent. Et entre chrétiens, on doit accepter un reproche. Est-ce que vous acceptez les avertissements, les reproches? Est-ce que vous les acceptez? Si vous venez me faire un reproche, est-ce que je dois l'accepter? Si c'est juste, bien sûr. Mais quelqu'un s'en charge. J'ai quelqu'un qui s'en charge à la maison, vous inquiétez pas. Hein? Mais bien sûr qu'on peut dire, oui, on devrait laisser les gens dans l'Église, c'est ça, vous voyez. La moitié de l'Église, de cette femme de pasteur là, dont je viens de vous parler, elle était malheureuse, elle ne comprend pas. Mais il faut les laisser dans l'Église. C'est comme ça qu'on va les aider. Non, 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 je le répète, un peu de levain fait lever toute la pâte. Purifiez-vous du vieux levain. Il faut qu'il y ait de la pureté dans l'Église. Vous avez vu, il le dit, avec un levain de la pureté et de la vérité. En enlevant le chrétien qui vit dans le péché, eh bien on enlève le scandale dans l'Église. On maintient la vérité, on maintient la sainteté, on glorifie le Seigneur Jésus-Christ. Et il faut que nous ayons cette affection fraternelle. Si vous connaissez quelqu'un qui est dans le péché, ne faites pas comme ce frère qui était là et qui est parti maintenant, parce que justement il a eu honte. Mais c'est bien qu'il ait eu honte, mais il n'aurait pas dû partir. Il aurait dû s'humilier, dire « je regrette, j'aurais dû être honnête devant Dieu ». Mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus sur la croix, il est mort pour qu'on puisse vaincre tous les péchés. Alléluia. Vous le croyez ça? Qu'on peut vaincre les péchés? Mais bien sûr, nous avons un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est merveilleux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour terminer, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est au verset 9, du verset 9 au verset 13. C'est pour ça, mes frères et sœurs, que cette étude vous apprenne à voir comment Dieu s'y prend pour nous parler. Donc, il explique qu'il y a un péché. En vérité, il n'y en a pas un. Et il y en a deux. Il faut le régler d'une manière sérieuse, comme ça on amène le gars à de nouveau à se purifier lui-même et à purifier l'Église. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Comment se garder pur? Parce que en vérité, le problème, il est là. Comment se garder pur? Eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Non pas de manière absolue avec les débauchés de ce monde. Bien sûr, vous pouvez travailler avec des voleurs, des menteurs, des ivrognes. Ça, c'est normal. C'est des impies. Mais qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Il dit que nous devrions, entre chrétiens, faire attention à avoir des relations convenables. Est-ce que c'est important pour vous? Quels sont le genre de relations que vous avez entre frères et sœurs? Eh ouais. N'ayez pas de relations avec les débauchés. Eh ouais. Vous seriez, qu'est-ce que vous diriez si vous appreniez que mes meilleurs amis, c'est des chrétiens qui vivent dans la débauche? c'est des pasteurs qui vivent dans la fornication. Qu'est-ce que vous diriez? Et moi, je vous dis, non, mais attends, mais c'est ma vie, tu ne te mêles pas de mes problèmes. Et vous diriez, il y a un problème. Il y a un problème. La solution, elle est là. Un chrétien, bien sûr qu'il faut prier pour ces gens, et il faut supplier Dieu pour ces gens, etc., etc., etc. Mais un chrétien doit éviter d'avoir des contacts avec des croyants, entre guillemets, qui sont dans la débauche. Celui qui se dit frère et qui vit dans la débauche, il faut l'éviter. Voilà, c'est ce que Dieu nous demande. Alors pourquoi les chrétiens en arrivent à faire de telles choses? C'est la question, pour conclure. Pourquoi on peut en arriver là? Eh bien, c'est pas compliqué. C'est parce qu'il y a des chrétiens charnels. Quand on redevient charnel, eh bien, on fait des choses charnelles. C'est pas compliqué. Eh bien, comment ça se fait? Ce chrétien, il est tombé dans l'homosexualité. Mais comment c'est possible? Eh bien, parce qu'il est redevenu charnel. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Ben, vous savez, moi, tous les jours, ça peut m'arriver un jour d'oublier dans ma prière, tous les jours, je demande au Seigneur de me délivrer du malin. Est-ce que Jésus nous a demandé de prier ainsi? Délivre-nous du malin. Ah ouais? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y en a un qui va se charger de tout faire pour nous faire redevenir charnels. Pourquoi il y a tant de rétrogrades? Pourquoi il y a tant de chrétiens qui sont des vierges folles qui n'ont pas d'huile? Mais parce qu'ils sont charnels. Quelqu'un qui n'a pas d'huile, qui n'a pas de la vie de l'esprit, c'est quelqu'un qui est charnel. Ils ne veulent pas obéir à Dieu, ils ne veulent pas du Saint-Esprit, ils ne veulent pas être conduits par lui. Pourquoi vous êtes venus ce soir dans la maison du Seigneur? Parce que vous voulez du Seigneur, parce que vous voulez son esprit, parce que vous voulez apprendre. Voilà, c'est ça être spirituel. Alors quand les croyants commettent un péché, eh bien, il faut qu'ils se repentent. Voilà. Et il faut prier pour toujours les responsables de l'Église. Donne, Seigneur, aux responsables ce discernement. C'est ça, l'Église. Donne à tous les responsables de l'Église du discernement. Est-ce que dans l'école du dimanche, on peut avoir un animateur qui ne va pas bien? Est-ce que ça peut arriver? Eh oui, Seigneur, donne du discernement à Madame Gau. Est-ce que dans la chorale, il peut y avoir un chant qui ne va pas bien? Eh bien, donne du discernement à Jonathan Blanc. Ainsi de suite. Donne du discernement à celui qui voilà, etc. C'est ça, protéger l'Église. Et ça, ça plaît à Dieu. Et ça, ça vient de Dieu. L'Église, elle ne doit pas juger le païen. Les païens, ils viennent, tant qu'ils ne sont pas convertis, tant qu'ils ne sont pas nés de nouveau, tant qu'ils ne sont pas baptisés, c'est leur problème. Ils veulent vivre dans le péché, c'est leur affaire. Mais quand quelqu'un est devenu chrétien, s'il a un mauvais témoignage, il jette l'opprobre sur l'Église. Et Paul le dit. Il dit, mais nous, on doit juger ceux du dedans. Ceux du dehors, Dieu les jugera. Ne pensez pas que parce qu'il ne faut pas les juger, Dieu ne les jugera pas. Dieu les jugera. Mais ce n'est pas le travail du chrétien. Alors que Dieu nous aide, mes frères et sœurs, à gagner des âmes. On va terminer avec un verset que j'avais sur mon cœur, dans Jacques. C'est le dernier verset de Jacques. On va terminer avec ce verset parce que quand même, il est dit dans les proverbes, une âme sage, qu'est-ce qu'elle fait une âme sage? Elle gagne des âmes. On peut gagner des âmes, hein? Vous savez, en étant sage, là on a plusieurs rétrogrades qui sont revenus dans l'Église. Je me suis vraiment réjoui. Ils ont été tous bien accueillis. Ils se sont trouvés bien de suite dans l'Église. Ils ont été là, on a fait le point. Moi je me suis réjoui. Ça c'est important, de bien accueillir les rétrogrades. On verra ça plus tard dans la deuxième épître. Je voulais le faire ce soir, mais je vois que l'heure tourne. On le verra dans la deuxième épître. Ça aurait été bien qu'on le conjugue, mais c'est pas grave. On reprendra ça dans la deuxième épître. Jacques chapitre 5, versets 19 et 20. Regardez ce verset comme il est beau. Mes frères, mes sœurs, bien sûr, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Vous voyez, mes frères et sœurs, c'est pas encourageant, ça? Vous voyez comme quoi dans l'Église, on peut travailler à gagner des âmes, à regagner des rétrogrades. Un rétrograde, ce n'est pas une victoire, c'est une double victoire. Quand quelqu'un a perdu longtemps la communion avec Dieu et qu'il revient, c'est pour ça. Je ne sais pas si vous priez pour les rétrogrades. À Toulouse, il y en a des milliers de rétrogrades. Vous avez bien entendu? Des milliers. Et Dieu pourrait en ramener dimanche, samedi à la réunion de jeunesse, jeudi après-midi, jeudi soir. Est-ce que Dieu peut ramener des rétrogrades dimanche après-midi à l'évangélisation? Il faut bien les accueillir. On verra que le péché, ce n'est pas que la sexualité, la débauche sexuelle, ou ce n'est pas que l'indifférence, c'est aussi après de bien apprendre à les consoler les gens. On n'a pas besoin de consolation des fois? Dites-moi, on n'a pas, c'est pas, Ça fait pas du bien des fois d'être consolé, hein? Ça, on vous avait déjà pris dans les bras, on vous a serré, on vous a dit je t'aime. On l'a jamais fait ça? On l'a jamais fait? Votre mari vous l'a jamais fait? Ça fait du bien d'être consolé. On verra ça plus tard. Ouais. Mais c'est vrai, on en a besoin. Vous savez, la discipline, c'est pas que la discipline. La discipline, c'est, ça doit être vu avec plein de vertus qui font que toutes ces choses plaisent au Seigneur. On ferme les yeux, hein? On demande au Seigneur de bénir l'Église.